L'évangile de Marc est au chapitre 10 et nous allons prendre la suite de ce que nous avons vu la semaine dernière. Donc le titre c'était « Qui peut accéder au royaume de Dieu ?» Et nous avions vu que pour accéder au royaume de Dieu, eh bien il fallait d'abord recevoir comme un enfant. Vous tendez quelque chose à un enfant, il le prend. Et nous devons recevoir Christ comme un enfant reçoit un cadeau. Et aussi, le royaume de Dieu est pour ceux qui suivent Christ. Quand il nous invite à le suivre, eh bien, nous sommes prêts à le suivre. Nous avons vu la semaine dernière ce jeune homme riche à qui Jésus a dit « Écoute, lâche tout ce que tu as et viens suis-moi. » Et comme l'homme n'était pas disposé à lâcher ce qu'il avait, eh bien il n'a pas pu suivre et donc il n'a pas pu répondre à l'invitation de Jésus. Et il était tout triste. Quand je ne peux pas répondre, quand je sais que le Seigneur veut quelque chose de moi et je ne peux pas parce qu'il y a quelque chose en moi qui me retient, eh bien je vais être triste si je suis enfant de Dieu. Si je ne suis pas enfant de Dieu, ça ne va pas m'affecter. Mais si je suis enfant de Dieu, ça me rendra triste, je serai triste. Et donc, je rappelle aussi que le royaume de Dieu, c'était, on a dit que c'était l'ensemble de tous les croyants, de tous les temps. Donc, depuis la création jusqu'à la fin du monde, tous les croyants en Dieu, eh bien, composent le royaume de Dieu. Maintenant, parmi ces chrétiens, il y a ceux qui sont de l'Alliance, qui sont avant Moïse. Après, il y a ceux qui sont de la loi, qui sont sous Moïse. Après, il y a ceux qui sont sous la grâce, en Jésus-Christ. Il y a différents groupes, mais ils sont tous dans le royaume de Dieu. Tous composent le royaume de Dieu. Et donc, nous allons continuer à partir du verset 24. C'est là où nous étions arrêtés. Nous avions lu le verset 24, nous allons relire le verset 24 et continuer jusqu'au verset 31. Donc si vous pouvez suivre la lecture, donc Marc 10, et je commence au verset 24, il dit « Les disciples furent étonnés de ce que Jésus avait ainsi parlé. Et reprenant, il leur dit « Mes enfants, il est difficile à ceux qui se confient dans les choses, dans les richesses, d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Mais qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes. » Mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Certainement, qu'en lisant ce passage, je l'ai dit, il y a plusieurs trucs là que je n'ai pas bien compris. Il y a plusieurs des phrases comme ça que le Seigneur lance. Et puis, d'abord, on entend, on dit, ah, c'est bien. Mais après, quand on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais plus. Et donc, nous allons essayer de progresser doucement là. Encore une fois, c'est toujours dans sous ce thème. Qui peut accéder au royaume de Dieu? Qui peut accéder au royaume de Dieu? Donc c'est la leçon 2. Et Alors, premièrement, ce que nous voyons dans cette première phrase, cette déclaration de Jésus, c'est que le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui se confient dans leurs richesses. Hein, c'est ça la première déduction que Jésus tire de cette rencontre avec ce jeune homme riche, c'est que ceux qui se confient dans leurs richesses, eh bien, n'ont pas accès au royaume de Dieu. Et deuxièmement, nous allons voir que pour accéder au royaume de Dieu, eh bien, il faut être disposé à tout quitter pour le suivre. Donc, disposé à tout quitter pour le suivre. Alors, je reviens à la première partie. Le royaume de Dieu est pour ceux qui se confient, n'est pas pour ceux qui se confient dans les richesses. Jésus dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il n'a pas dit que c'était impossible, il a dit que c'est difficile. Et ensuite, il dit, c'est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, ou un riche qui se confie dans ses richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça qu'il voulait dire. Alors il dit, c'est difficile, mais en fait, quand on écoute ce qu'il dit, c'est presque impossible. Et il va le dire plus tard, il va dire, c'est impossible aux hommes. Jésus lance ça comme ça, et c'est une parole qui choque. Parce que ses disciples avaient été éduqués dans la loi juive, ils avaient été éduqués que si on était riche, c'était un signe de la bénédiction de Dieu. Alors, si la richesse est un signe de la bénédiction de Dieu, et puis cette personne avec sa richesse est généreuse avec les autres, eh bien, pourquoi est-ce que Jésus dirait qu'il est difficile pour un tel homme d'entrer dans le royaume de Dieu? Finalement, on dirait, mais ça, c'est lui le premier qui va passer. Et Jésus dit, non, c'est très difficile pour lui. Jésus n'est pas anti-riche, mais... nous allons voir sa pensée. Et puis, les disciples avaient été éduqués dans le sens que les pauvres, eh bien, les pauvres devaient accepter leur sort et que Dieu était leur défenseur. Donc, Dieu quand même prendrait soin d'eux. Et donc, voilà, les riches sont bénis et les pauvres sont les défenseurs. Et là, Jésus est presque en train de... Jésus dit une phrase qui choque parce qu'il dit presque l'inverse. Et donc, ils sont étonnés. Et d'où la réaction des disciples. Alors, qui peut être sauvé? Si les riches ne peuvent pas, alors qui peut l'être? Vous avez vu cette expression de Jésus, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, au verset 25. Je pense qu'on n'a pas besoin de savoir beaucoup sur les chameaux pour comprendre cette image. Hein, il ne faut pas aller chercher loin dans cette expression. C'est une expression de l'époque pour dire que c'était impossible. C'est tout. Hein. Du point de vue littéraire, on appelle ça une hyperbole. Une hyperbole, c'est une exagération pour démontrer l'impossibilité. Jésus s'en est servi 2-3 fois. Dans Matthieu 7, il dit comment tu vois la poutre qui est dans l'œil de ton prochain et tu vois pas la paille qui est dans ton œil. Bon, on peut, il a exagéré, une poutre, on met pas une poutre dans un œil. Mais on comprend bien ce qu'il voulait dire. Et aussi dans Matthieu 23, verset 24, Jésus avait employé, il a dit aux pharisiens, il dit, oui, hypocrite, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Le moucheron, une toute petite mouche qu'il y a dans, vous savez, dans le lait. Il dit, vous allez enlever ça pour eux. Et puis après, mais vous allez laisser passer quelque chose de gros comme ça. Il dit, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. C'est des images qu'on comprend. Mais c'est pour montrer que... Et donc Jésus Bon, c'était un peu son style aussi de parfois utiliser une hyperbole. Et là, il en emploie une et il dit il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ils ont compris qu'il disait que c'était impossible. Et donc, n'allons pas chercher plus loin. Et les disciples ont dit, mais qui peut être sauvé alors? Eh bien, on a envie de répondre à ces disciples et dit, mais attendez, vous n'avez pas vu, entendu combien de fois Jésus a dit à des pauvres malades, il les a guéris, et ensuite il leur a dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Il dit, vous n'avez pas entendu combien de fois Jésus a dit à quelqu'un, ta foi t'a sauvé, va en paix. Finalement, il y a plein de gens qui ont été sauvés. Et des gens, pas forcément des riches, la plupart n'étaient pas riches. Il y avait quelques-uns qui étaient peut-être riches, peut-être Jaïrus, parce qu'il était chef de synagogue. Peut-être qu'il y en avait quelques autres. Il y avait Zachée qui était riche et qui avait... Mais la plupart, c'était des gens pauvres. Il dit, vous avez vu, il y a des gens qui ont été sauvés. Mais eux, vous savez, c'est là où, quand on est sous l'influence d'une éducation, on a des idées préconçues, on nous a éduqués d'une certaine manière... Et après, il y a la pensée de Christ. Et c'est très important d'essayer de comprendre et faire la différence entre une éducation qu'on a pu recevoir où il y a des erreurs et puis de comprendre la pensée de Dieu. Jeudi, on parlait du renouvellement de l'intelligence, de changer notre manière de penser, de voir. Eh bien, là aussi, ses disciples avaient besoin de cela. Bien sûr, Jésus disait, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Il dit, oui, pour les hommes, eh bien c'est impossible. Quelqu'un qui est très attaché à tout ce qu'il possède, peu importe ce que c'est, hein, ça peut être la richesse, comme ça peut être des copines, comme ça peut être... Un ami, comme ça peut être un sport, comme ça peut être une voiture, comme ça peut être une maison, comme ça peut être son épouse, comme ça peut être même des bonnes choses. Mais à partir qu'on est tellement attaché à cela que ça nous empêche d'avancer avec le Seigneur, eh ben ça va plus. Et donc il a dit, il n'y a que Dieu qui peut m'aider à réévaluer cette relation et voir cette chose qui m'empêche. Et puis après, me libérer pour que je puisse être sauvé. Et combien de gens ont entendu l'évangile de Dieu, mais ils ont dit, ah non, je ne peux pas. Parce qu'après, je ne peux plus faire ça, je ne peux plus faire ça, je ne peux plus faire ça. Non, non, je... Donc tu donnes plus d'importance à ces choses-là qu'à Jésus-Christ. Et donc, il dit, c'est impossible aux hommes... des hommes tout seuls, mais avec l'aide du Seigneur, l'aide de l'Esprit de Dieu qui travaille dans nos cœurs, il peut nous aider à arriver au point où nous sommes prêts à dire, comme l'apôtre Paul, il dit, toutes ces choses, je les considère comme de la boue, afin de gagner Christ. Là, c'était des choses, il a dit, avant, je faisais tout pour avoir cette justice et cette réputation devant les hommes. Il dit, maintenant, tout ça, ça compte pour rien. Parce que j'ai les yeux fixés sur Jésus-Christ. Nous avons remarqué aussi que quand Jésus a dit cette phrase, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous avez remarqué qu'il dit les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres. Au lieu de poser une question à Jésus, il lui dit qu'il explique un peu... C'est vraiment nouveau pour nous. Non, ils parlent les uns aux autres. Vous savez combien de fois, quand on ne comprend pas quelque chose, on s'adresse aux hommes, on s'adresse à n'importe qui, au lieu de demander au Seigneur de nous aider à comprendre. Ou de se tourner vers celui qui peut nous faire comprendre ce que le Seigneur a dit. On commence à consulter les uns les autres, et les commentaires et tout cela. Alors que, Seigneur, toi montre-moi ce que cela veut dire. Ou envoie-moi quelqu'un qui peut m'expliquer ce que tu veux dire. Et donc, heureusement que eux, ils se posaient la question entre eux. Ils n'ont pas posé la question à Jésus, mais Jésus a répondu quand même. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ben, demandez-moi, je vous dirai. Non, il a dit. Et il nous dit que Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Finalement, Jésus transforme cette situation d'impossibilité, d'impasse, de voie bloquée, il la transforme, il donne de l'espérance. Il dit, peut-être, dans l'état où tu es, c'est pas possible. Tu te dis, mais j'ai des choses, j'ai du bagage, j'ai des choses auxquelles je suis attaché, j'ai des désirs, j'ai des ambitions, j'ai tout ça. Tout ça, ça m'empêche d'avancer avec le Seigneur. Mais Jésus dit, écoute, ne désespère pas. Pour toi, c'est peut-être impossible. Tu te dis, mais j'arriverai jamais. Mais il dit, avec Dieu, c'est possible. Et Jésus donne toujours un message d'espérance. Donc, la vérité est qu'aucun homme ne peut accéder au royaume de Dieu. Parce que finalement, même, c'est pas parce qu'on est riche qu'il y a des gens qui sont pas riches qui viennent pas à Dieu aussi. Hein. Donc c'est pas uniquement les richesses qui nous empêchent. Il y en a qui n'ont rien et ils ont plus de dettes qu'ils n'ont de richesses et qui ne viennent pas à Dieu. Donc le problème n'est pas vraiment les richesses. Le problème c'est qu'il y a quelque chose qui m'empêche de venir. Et donc il ne peut accéder au royaume de Dieu. Et puis il y a surtout le gros problème. Il nous dit. C'est car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Déjà, même si j'étais pas riche, même si j'avais rien du tout, j'avais que des dettes et tout ça, il dit déjà tu ne pourrais pas parce que à cause des péchés. Obligé de première chose, c'est de venir à Dieu et en reconnaissant la croix, dire pardonne-moi mes péchés parce que Christ est mort sur la croix pour moi et de demander à Dieu de pardonner nos péchés. Et puis même quand on l'a lu tout à l'heure, 1 Jean 1,9, il dit « Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute, c'est-à-dire n'importe lequel, iniquité. » Donc, c'est Dieu qui fait la différence. Dieu a planifié un moyen du salut. Jésus l'a exécuté sur la croix et le Saint-Esprit est en train de le mettre en pratique dans nos vies. Toute la Trinité agit ensemble pour nous sauver, pour que nous puissions accéder au royaume de Dieu. Il est possible pour ceux qui se confient en Christ d'être sauvés et par ce moyen accéder au royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui se confient dans leur richesse ou autre chose, mais pour ceux qui se confient à Dieu, qui viennent à lui tels qu'ils sont. Et dit, voilà. Matthieu était un homme riche aussi. Et Jésus lui a dit, suis-moi. Et il nous dit, il a tout laissé et il a suivi. Zachée était un homme riche. Jésus a dit, écoute... Et Zachée a dit, moi, je donne la moitié aux pauvres, et puis à tous ceux à qui j'ai volé, je leur rends 4 fois ce que j'ai pris, et puis je viens. Et bien ça a changé, c'était autre chose. Donc c'est pas, Jésus dit, tout seul, lorsque tu es attaché à quelque chose, et bien c'est impossible. C'est plus facile pour le chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour toi de venir à Dieu. Mais si tu lâches tout cela, et si Dieu t'aide, et tu fais appel à Dieu pour qu'il t'aide à lâcher cela, tu peux venir à Dieu, peu importe ton état, peu importe ce que tu as derrière toi. Et donc, d'où cette deuxième partie, eh bien, c'est le royaume est pour ceux qui quittent tout pour suivre Jésus. Parce qu'il y arrive un moment où Pierre, il commence à comprendre, il commence à comprendre un peu. Et tout d'un coup, il dit... Au verset 28, Pierre se mit à dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Alors tout d'un coup, il dit, « Ah, si c'est comme ça, ben nous d'accord, ah ben, c'est bon alors pour nous. Nous, on a tout quitté. » Et c'est vrai, on lit au début de l'évangile de Marc, on a vu que Pierre et Jean, Pierre et son frère, Pierre et... Non, Pierre, son frère, c'est Jean et Jacques, Pierre et André. Pierre et André, eh bien, ils ont laissé leur filet et ils ont suivi Jésus. Jean et Jacques, c'était deux frères, ils ont laissé leur père et le filet et les ouvriers, et puis ils ont suivi Jésus. Jésus a vu Matthieu, qui était en train au péage, là, en train de collecter les impôts, et Jésus lui a dit, viens, suis-moi. Et il s'est levé, il a tout laissé. Alors, et certainement que tous les autres apôtres aussi, il y a eu un moment où Jésus a dit, écoute-toi, viens avec moi. Et il fallait tout laisser. Peu importe ce que c'était. Pour un, c'était un bateau, pour l'autre, c'était une maison, pour un autre, c'est la famille, pour un autre, peu importe ce que c'était. Mais la question, c'est que nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quitté et suivi. Et c'est ça, pendant le restant de notre temps, nous allons jouer avec ces deux mots-là. Quitter et suivre. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas quitter et qui veulent suivre. Il dit, je garde ce que j'ai et je veux Jésus en plus. Et ce n'est pas possible. Hein? Dans Matthieu, lorsqu'on lit dans Matthieu 19, le même passage, il nous dit que Pierre a ajouté, nous avons tout quitté pour te suivre, alors qu'en est-il pour nous? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va nous arriver à nous? Qu'est-ce qu'on va gagner, nous? Et dans Matthieu, bien sûr, il leur dit, écoutez, un jour, quand je serai roi, ben vous régnerez avec moi. Pour ce qui vous concerne à vous, en tant que disciple. Mais dit, et pour les autres, ceux qui auront quitté leur père, leur mère, leur maison, leurs frères, pour moi, eh bien, ils auront au centuple sur la terre et ils auront la vie éternelle aussi. Alors, Marc, il a repris uniquement la partie qui était générale pour tout le monde. Matthieu, il a dit ce qui était spécifiquement pour les disciples. Et il dit aussi ce qui est pour tous. Marc reprend uniquement ce qui est pour tous. Pourquoi ? Parce qu'on a dit déjà, on l'a dit plusieurs fois, Marc est en train d'écrire à des Romains, païens, à Rome, des païens à Rome. Donc eux, ce n'est pas les disciples, ce n'est pas le plein de leur dire ce que les disciples ont reçu, c'est qu'est-ce qu'eux vont recevoir. Hein, parce qu'ils sont, ils les préparent pour la persécution, et dans la persécution, en général, on perd tout. Mais il dit, non, vous ne perdez pas tout. Finalement, vous gagnez. Hein, parce que vous êtes prêt à tout quitter. Vous êtes prêt à tout perdre. Il y a des gens qui font les calculs comme des banquiers ou comme des économes. Ils me disent, ah, si je donne un à Dieu, lui va me donner 100. Et vous avez peut-être été visiter des églises où il vous dit, tu mets 1 euro, Dieu te donnera 100 euros. Vous faites ce calcul-là et vous allez voir qu'il y a des gens qui assistent là depuis longtemps et ils n'ont jamais le 100 euros. Parce que ce n'est pas ça que Dieu voulait dire. Il ne s'est pas engagé. Ce n'est pas lui qui n'a pas gardé sa parole. C'est quelqu'un qui l'a mal représenté. On ne fait pas du commerce avec Dieu. Il dit, moi, je te donne 1 euro, tu vas me donner 100. Hein? On appelle ça l'évangile de prospérité. Je me rappelle à Saint-Denis, il y avait un couple qui est venu me voir. Ils étaient dans une église où on prêchait ça. Il dit, vous donnez au Seigneur et il vous rendra 100 fois. Et eux donnaient tout le temps. Et continuaient à donner jusqu'au moment où ils avaient tellement de dettes, l'église n'en voulait plus d'eux, parce qu'il n'y avait plus d'argent à donner. Et puis, ils ont dû partir. Et ils sont venus nous voir, sans rien, avec des dettes. On dit, ouais, mais bon, c'est pas comme ça. Dieu s'est jamais engagé à ça. C'est pas Dieu qui n'a pas été fidèle. C'est que quelqu'un a mal enseigné. Parce que le centuple, c'est pas une proportion de ce qu'on a quitté. C'est-à-dire, si tu lâches 1 euro, il te donne 100. Ou si tu lâches une maison, il te donne 100 maisons. Ou si tu lâches une sœur, tu en auras 100. Non, non. Mais il a dit, mais la bénédiction, c'est-à-dire les compensations que vous aurez, finalement, seront beaucoup plus grandes que ce que vous avez quitté. Dieu ne rend pas des euros pour des euros. Il se peut que j'ai lâché ceci, mais en compensation, il pourvoit sur autre chose. Donc, il dit, mais bon, il t'a tellement donné, tu te sens tellement enrichi. Je dis, mais maintenant, avant, j'étais dans la solitude, j'étais aussi les amis. Ouais, je croyais avoir des amis, mais quand je suis arrivé, des ennuis, j'en avais plus. Hein, comme quelqu'un dit, c'est une caricature. Il dit, le gars, c'est à l'enterrement. Et dans l'enterrement à l'église, il y a le cercueil, et puis il y a 3-4 personnes. Et puis il y en a un qui dit à l'autre, il dit, mais pourtant il avait 250 amis sur Facebook. Et où sont-ils, hein? Ils ne sont pas là pour son enterrement. Et vous savez, c'est là, les amis, c'est quand on a besoin qu'on sait qui sont les amis. Ce n'est pas quand, pendant la fête. Et donc, mais tandis que le Seigneur dit, mais quand tu viendras suivre moi, tu auras des gens, des vrais, que tu peux compter dessus. Ce n'est pas tous ceux qui se disent chrétiens qu'on peut compter dessus, mais des enfants de Dieu, des gens qui sont vraiment engagés à Dieu, eh bien, on peut compter dessus. Et j'en suis témoin, j'en ai bénéficié. Hein, je peux attester de cela. Hein. J'en avais un voisin, un Français, là, à Saint-Denis, il dit, mais vous connaissez beaucoup de monde. Il y a tout le temps des gens qui passent chez vous, ils viennent de tous les pays du monde et vous avez beaucoup d'amis. Il dit, oui, mais c'est parce qu'on est dans le Seigneur. Parce que lui, il a dit, moi, nous, il y avait on avait acheté notre maison et puis il y avait une petite maison mitoyenne. Il y avait un Portugais là et il voulait vendre ça pour construire ailleurs. Mais bon, comme c'était mitoyen et c'était tout ça, il trouvait très peu de gens. C'est-à-dire, la seule personne qui serait vraiment intéressée, ce serait nous, hein, pour agrandir la maison. Alors, il est venu nous voir. Il a dit, mais bon, on n'a pas d'argent, mais bon, on va voir. On va voir ce qu'on peut faire. On aimerait faire une salle de réunion, là. Et alors, on a envoyé une demande, et puis l'argent est rentré pour pouvoir acheter. Il a dit ça, alors. Il dit, moi, quand j'ai besoin d'argent, il n'y a plus personne. Tous les gens qui étaient amis, oh, ils ne peuvent pas me prêter, ils n'ont rien du tout. Vous n'avez rien, et puis vous faites un appel, et puis vous avez l'argent pour acheter. Il dit, mais si, je ne comprends pas. Je dis, mais c'est le Seigneur. Vous savez, c'est ce principe-là. Hein, c'est que je suis prêt à tout laisser, ce n'est pas que le Seigneur a besoin de bénir, mais quand j'ai besoin, eh bien, il y a quelqu'un. Il dit, et pour les gens qui regardent, ils vont croire, ils vont dire, mais tu as le centuple de ce que j'ai. Tu en as 100 fois plus que ce que j'ai. Et la manière encore, quand il dit centuple, ce n'est pas qu'il faut multiplier exactement par 100, parce que parfois Dieu multiplie par 80, et parfois il multiplie par 150. Hein. Ça, c'est... Mais la question, c'est, il te donne en abondance par rapport à ce que tu as lâché. Et il parle de... Et le mot quitter, là, c'est peut-être intéressant parce que j'avais posé la question, mais quitter, ça veut dire, bon, mes parents, pourquoi? Je suis obligé de quitter mes parents, je suis obligé de quitter ma mère, quitter mes soeurs, tout ça. Le mot quitter, là, c'est dans le sens de quand je dois quitter pour suivre. Parce que des fois, c'est pas une question qu'on ne doit plus aimer nos parents, mais si j'arrive dans la situation où je dois choisir entre mes parents et Jésus, alors là, je suis prêt à quitter mes parents pour suivre Jésus. Hein, ça arrive parfois dans des situations où on a été élevé dans une autre religion et puis les parents ils n'apprécient pas le fait qu'on suive l'évangile. Ça peut arriver Par exemple, dans les familles juives, hein, s'il y en a un qui quitte le judaïsme pour devenir chrétien et enfant de Dieu, eh ben, eux, ils font un service d'enterrement. Ça y est, c'est terminé. Ils coupent. Et donc, il dit, celui qui quitte, mais parce que c'est poursuivre. Et c'est pour ça que Jésus dit ici, au verset 29, il dit, Jésus répondit, « Je vous le dis, qu'il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, donc à cause de l'évangile, sa maison, sa famille, quelque chose, qui ne reçoit pas le centuple. » Donc il n'a pas dit, « Mettez 10 euros dans l'offrande et vous en aurez 1000. » C'est pas, il a dit, « que vous avez quitté à cause de moi. » Par attachement à moi, vous avez été obligé de couper des ponts. Il dit là, je compenserai. Je compenserai. Donc, ce n'est pas de la comptabilité qu'il faut faire là, ou ce n'est pas une manière de jouer la bourse, mais c'est. Et ce n'est pas du loto non plus, hein, mais c'est Dieu qui voit et qui tient compte de ce que cela nous a coûté de le suivre. Et il dit, et bien sûr, il dit, n'oubliez pas que parfois, ça viendra avec la persécution. Il dit à la fin du verset 30, il dit, ils ne reçoivent au centuple présentement, dans le siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des enfants, des terres, avec des persécutions. Dites ça dans une église où ils font l'évangile de prospérité. Dites-leur, vous mettez un euro, vous en aurez 100, mais il y aura de la persécution, hein, il y aura beaucoup d'ennuis, de problèmes et tout ça. Alors, non, ce sera autre chose. Et où on prêche, hein, Jésus a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. On doit enseigner toute la parole de Dieu, pas une partie de la parole de Dieu, la partie qui plaît, qui arrange, qui fait que les gens donnent. Non, on n'est pas là pour les manipuler. Et donc, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont faites au nom de Jésus, qui ne devrait pas exister. Alors, voilà, il dit, mais pour tous ceux qui quittent pour me suivre, eh bien, il y a une chose qui est sûre pour tous, c'est la vie éternelle. Le don de Dieu, hein, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu. Je ne sais pas pourquoi il a dit. Déjà, si c'est un don, on sait que c'est gratuit. Mais pour qu'on soit sûr qu'on comprenne bien que c'est gratuit, il a dit le don gratuit. Vous avez déjà vu des dons qu'on achète ? Mais pour que ça soit clair, pour qu'on le comprenions, il a dit le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et ensuite, je termine avec cette dernière phrase, le verset 31. Il dit « Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers ». Et qu'est-ce que ça veut bien dire ? Bon, je sais que souvent, en blaguant entre nous, on le dit, hein, celui qui arrive, on fait l'équipe qui a perdu, là, pour la chasse au trésor, et ben, eux, ils ont tout d'un coup pensé à ce verset, les derniers seront les premiers, hein, comme par hasard. Bon, je sais qu'on dit ça en plaisantant, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Qu'est-ce que Jésus voulait dire par cela ? Eh bien, déjà, dans ce contexte, puisque Jésus s'en sert, c'est que ça s'applique à ce contexte ici. Et vous voyez, ce jeune homme riche, qui était considéré dans la société comme étant premier, hein, c'était celui qui est béni de Dieu, celui qui a une bonne position devant Dieu, et bien tout d'un coup, et bien il se retrouve sans rien devant Dieu. Et les disciples qui ont tout quitté, et bien finalement se retrouvent dans le royaume de Dieu. Donc c'est un cas où le premier est devenu dernier, et le dernier est devenu premier. Jésus s'en sert dans d'autres situations aussi. Dans Matthieu chapitre 20, il raconte une parabole, et dans cette parabole, il y a des ouvriers. Il y a des ouvriers qui, de bon matin, ils ont été embauchés et travaillent dans la vigne. Et après, quelques heures plus tard, il y en a d'autres qui arrivent dans la vigne. Et puis, plusieurs heures plus tard, il y en a quelques-uns qui arrivent en fin d'après-midi et ils ne travaillent qu'une seule heure. Et à la fin de la journée, le propriétaire paye tous la même somme, en commençant par les derniers venus. Et à la fin de cette parabole, il dit, les premiers seront les derniers seront les premiers. Et puis il y a aussi dans Luc 13, verset 30, Luc 13, verset 30, il parle de, justement, il viendra, verset 29, il viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, qui se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, les premiers qui seront les derniers. Encore une fois, c'est dans cette idée de la nation juive était les premiers à recevoir la révélation. Mais ce qui va arriver, c'est que les païens vont croire. Ils vont arriver les derniers, ils vont croire, et finalement, eux vont se retrouver dans la gloire, les premiers. Et Jésus dit la même chose. Et donc, finalement, c'est une pensée qui est là, dans la pensée du Seigneur, c'est qu'il dit, ça se vérifie très souvent dans la vie de tous les jours, les derniers seront les premiers. Et parfois il arrive hein, dans une église que ce n'est pas forcément ceux qui sont nés dans une famille chrétienne et que tout est bien, ils ont connu l'évangile depuis longtemps, ils connaissent toutes les histoires de la Bible, ils ne sont pas forcément les meilleurs chrétiens. Il arrive tout d'un coup quelqu'un de l'extérieur qui vient carrément d'une autre religion, tout ça, mais qui prend feu, hein, spirituellement parlant, et qui zélé, et que le Seigneur bénit. Et il arrive que les premiers ne sont pas les sont les derniers, et les derniers seront les premiers. Et ça se vérifie beaucoup dans la... Et donc, si vous avez ce sentiment d'être un dernier, hein, parce que dans la société, hein, comptez pas pour très lourd. Hein, on pèse pas lourd, on coûte pas cher, et puis on pourrait disparaître, et puis ça changerait rien. Et vous avez l'impression d'être vraiment... C'est dans ce monde, vous êtes un dernier. Eh bien, venez à Jésus-Christ, parce que il aime bien prendre des derniers. Il en fait des premiers. Peut-être pas grand-chose à offrir. Voilà, j'ai pas eu les privilèges, les opportunités d'un autre. Je suis pas né dans une famille, je suis pas né dans un pays, je suis pas né où j'ai toutes les chances et j'arrive comme ça. Oh, faisons confiance à Seigneur, parce que lui, chez lui. Il a une manière de faire, il dit, moi, les premiers ne sont pas toujours les derniers, les premiers ne restent pas toujours premiers, et les derniers ne restent pas toujours derniers. Il dit, il y a des fois où ça va. Il dit, fais-moi confiance, je ferai le nécessaire. Et le principe est que le Seigneur ne s'aligne pas nécessairement sur l'appréciation que nous pouvons avoir dans le monde ou sur la terre. Mais il fait sa propre appréciation. Finalement, ce n'est pas ce que je vaux chez les hommes ou ce que les hommes me donnent comme valeur. Il a dit, moi, je décide pour moi-même ce que je pense de toi. Et c'est moi qui décide ce que je vais faire de toi. Ce n'est pas ce que les autres pensent. Vous savez, et ça, c'est un moyen de salut. Parce qu'il se peut que vous avez grandi et vos parents vous ont dit, mais tu es nul, tu ne sais rien faire, tu bois rien, tu ne feras jamais rien. Certainement que tu moisiras en prison. Et puis, à force d'entendre ça, il finit par penser qu'il ne peut rien faire. Et puis, un autre, toutes sortes de situations où on est rabaissé, où le monde. Jésus dit, t'occupe pas, moi, ce que eux pensent, ça ne m'influence pas. Moi, je verrai ce que je peux faire avec toi. Viens à moi. Et moi, je verrai, moi, je te donnerai une valeur. Et vous savez, c'est la beauté de l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que moi, je trouve un grand plaisir à servir le Seigneur, parce que j'ai quelque chose pour n'importe qui et pour tout le monde. Et j'ai quelque chose de beau à offrir par Jésus-Christ. Donc, Jésus, finalement, dans ce passage, où on a première impression, on croit qu'il est en train de bloquer le royaume de Dieu, en fait, il est en train d'ouvrir grande la porte. Et il voudrait que tous viennent et tous entrent. Il dit, ne vous fiez pas à ce que la société peut dire. Venez, voyez ce que moi je peux faire. Hein, et ce que la société dit, c'est impossible, eh bien moi, je peux transformer. Normalement, cette semaine, je dois recevoir une lettre écrite par des prisonniers. Des prisonniers ils sont révoltés dans la prison et ils ont tué le directeur de la prison. Vous savez, si vous faites une faute grave, ça c'en est une. Hein. Vous risquez pas d'avoir des vacances pour bientôt. Donc ils sont condamnés à perpétuité, hein, ces gars-là, ils étaient tous condamnés à perpétuité. Mais il y a un serviteur de Dieu qui avait un ministère dans les prisons et qui a donné une Bible à ces gens et qui leur a parlé du Seigneur et ils ont cru. Et donc, je crois que c'était aux États-Unis, donc il y avait la peine capitale. Et donc, quelques jours avant l'exécution, ils ont écrit une lettre à ce frère. Il dit, nous voulons te remercier de nous avoir parlé de Jésus-Christ. Parce que nous allons mourir, nous avons mal fait, on paye, mais tu nous as fait connaître le pardon de Dieu et nous savons qu'il y a une autre vie qui nous attend. Et c'est une lettre, un témoignage. Donc, vous savez comment Dieu peut transformer les situations. Donc, ne nous laissons pas arrêter par l'idée que les gens ont de nous, mais trouvons du repos dans ce que Dieu pense de nous. Et ça, c'est la beauté de l'évangile de Jésus-Christ. Donc, ce royaume de Dieu qui semblait être fermé à tous, hein, oui, plus facile pour le chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour celui qui est attaché à des choses, eh bien, finalement, il nous dit, la porte est grande ouverte, venez, parce que les derniers peuvent être les premiers. Si vous avez Jésus-Christ dans le cœur, Alors, vivons pour lui, soyons prêts à tout quitter pour le suivre et suivons-le fidèlement. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre cœur, alors venez à lui, il peut donner un sens à votre vie. Et puis vous aurez le sentiment d'avoir le centuple de ce que vous avez abandonné. Et donc, que le Seigneur nous aide et lui est fidèle. Prions. Père Céleste, nous sommes reconnaissants à toi pour ta parole, ce message si encourageant, si beau, et Jésus te représenter. Et si Jésus nous paraît si attractif, c'est que toi tu nous serais attractif, Père, et c'est vers toi que nous voulons venir, c'est avec toi que nous voulons avoir affaire. C'est auprès de toi que nous voulons être. C'est avec toi que nous voulons demeurer pour toujours. Père, merci pour ta parole. Merci pour ton enseignement. Et tu vois chaque cœur ici. Tu vois ce qui est dans le cœur de chacun et ce qu'il pense actuellement en ces moments. Et Seigneur, toi, tu peux répondre à chacun en fonction de sa pensée. C'est au nom de Jésus-Christ, Père, que nous prions. Amen.
Tu peux proposer un cantique?
Il va avec le thème?
Normalement, oui.
Vas-y, toujours, nous sinon j'en ai un. Seigneur, nous sommes au Seigneur? Oui. Ben, c'est celui que j'avais choisi.
Non.
Le 300, oui.
Ah, c'est génial.
Le 300. Alors j'accepte.